Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle est une grande figure de la résistance à l'occupation allemande et au régime de Vichy qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a œuvré avec Raymond, son mari. Un mari qu'elle a fait évader au nez et à la barbe des nazis. Je vous raconte maintenant la résistante qui a sauvé son bien-aimé, Lucie Aubrac. Nous sommes en 1943 à Lyon. Ce 21 octobre, vers 5h30 du matin, Lucie Aubrac et ses camarades de la résistance suivent en traction un camion de l'armée allemande dans lequel se trouvent 14 des leurs, 14 résistants, parmi lesquels Raymond, l'époux de Lucie. Les assaillants sont lourdement armés. Quant à Lucie, elle serre dans sa main un pistolet. « À nous !» dit-elle au conducteur de la traction qui accélère pour se mettre à la hauteur du camion. Un résistant tire sur le chauffeur allemand qui s'effondre. Le véhicule s'arrête net et les soldats nazis sautent à terre, armes à la main. Lucie et ses camarades, eux, ont déjà pris position derrière leur voiture. En 2 minutes, ils ouvrent le feu. Les chargeurs sont vides et les Allemands éliminés. En plein combat, à la lueur des phares des voitures, Lucie Aubrac voit son époux sauter du camion. « Attention, la gabardine, c'est Raymond !» crie-t-elle à ses camarades. Trop tard, son époux reçoit une balle de son propre camp dans la joue. Malgré cette blessure, l'évasion est un succès. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Lucie Aubrac sauve son mari des griffes de la Gestapo. Lucie Bernard, qui prendra le pseudonyme d'Aubrac, dont était affublé celui qu'elle a aimé, voit le jour en 1912 à Paris, dans une famille modeste, originaire de Saône-et-Loire. Pendant la Première Guerre, son père, Louis, est appelé sous les drapeaux. Mais il est grièvement blessé et vite démobilisé. Le couple Bernard se fait embaucher au château du Plessis, à Blanzy. Louis comme jardinier, son épouse comme laitière. Lucie, elle, suit une autre voie. Élève brillante, travailleuse surtout, elle obtient à 26 ans l'agrégation d'histoire-géographie. Installée désormais à Paris, membre de la jeunesse communiste, Lucie est très appréciée de ses camarades, au point de tenir un temps les rênes de l'organisation dans le 13e arrondissement. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle est professeure à Strasbourg, où elle fait la connaissance de Raymond Samuel, futur Aubrac donc, un jeune ingénieur des ponts et chaussées issu de la bourgeoisie juive. Comme Lucie, il est militant communiste. Les deux jeunes gens s'aiment et finissent par se marier en décembre 1939. Raymond, qui effectue son service militaire dans les Vosges, est fait prisonnier par les Allemands avant d'être interné à Sarrebourg. Apprenant la nouvelle, sa jeune épouse organise son évasion. Lucie lui fait parvenir des comprimés qui, une fois ingurgités, devraient lui provoquer une forte fièvre. Et c'est réussi. Raymond est transporté à l'hôpital militaire où Lucie a fait le déplacement. La surveillance, plutôt légère, permet à la jeune femme de faire passer une tenue d'ouvrier à son époux qui l'enfile rapidement avant de se cacher jusqu'à la tombée de la nuit. À l'heure convenue, Raymond Aubrac escalade l'enceinte de l'établissement hospitalier tandis que Lucie, cigarette aux lèvres, détourne l'attention d'un garde en demandant du feu. L'histoire raconte aussi qu'elle flirte avec la sentinelle pour laisser à son mari le temps de s'échapper. Dès le lendemain, le couple prend le chemin de Lyon, situé en zone libre. Le régime de Vichy s'est installé, la collaboration s'impose violemment. Raymond et Lucie pourraient partir aux États-Unis se mettre à l'abri, mais ils refusent par patriotisme. À l'automne 1940, Lucie rencontre le journaliste Emmanuel Dastier de la Vigerie, qui vient de créer un groupe qui distribue les tracts contre l'occupant nazi. Lucie et Raymond intègrent rapidement le noyau dur de ce qui devient alors le mouvement de résistance Libération Sud. Leur domicile lyonnais accueille des réunions clandestines. Lorsque le journal résistant Libération est lancé, précisons qu'il ne s'agit pas du journal que nous connaissons aujourd'hui, Lucie se charge de sa fabrication et de sa diffusion. Malgré un nourrisson à gérer, elle travaille la nuit et colle des tracts en ville. Elle opère aussi comme agent de liaison entre les mouvements Libération Sud et Libération Nord. Un emploi périlleux qui exige une mémoire infaillible en raison des changements d'identité régulièrement imposés. En cas d'arrestation, Lucie doit pouvoir restituer sans erreur tous les détails de sa fausse identité. Raymond, de son côté, se voit confier la direction des groupes paramilitaires qui se fondront dans l'armée secrète. Arrêté, en compagnie d'autres résistants, il réussit à faire croire aux policiers qu'il n'est pas résistant, mais seulement trafiquant au marché noir. On l'envoie alors à la prison Saint-Paul à Lyon. Au culot, Lucie Aubrac se rend chez le procureur pour lui déclarer, je cite, qu'elle représente l'autorité du général de Gaulle. Elle ajoute que François Vallès, la fausse identité sous laquelle son mari a été arrêté, est un représentant du chef de la France libre. Lucie menace le procureur de mort s'il ne signe pas la remise en liberté de son époux. Et ça a marché. Dès le lendemain, Raymond Aubrac est libéré. Ne pouvant abandonner leur camarade en prison, le couple élabore un plan. Une dizaine de jours plus tard, un commando auquel Lucie et Raymond prennent part libère les résistants en se faisant passer pour des agents de la Gestapo. Mais le 21 juin 1943, la guerre est loin d'être terminée. Raymond Aubrac est une nouvelle fois arrêté, cette fois à Caluire, par le chef de la Gestapo lyonnaise, l'officier Klaus Barbie, et avec lui Jean Moulin, chef du Conseil national de la Résistance, et une dizaine d'autres résistants. Elle craint le pire pour Raymond, désormais emprisonné. Alors, après avoir envoyé son fils de 2 ans chez des amis, Lucie demande à rencontrer Klaus Barbie. Lors de cette entrevue, elle se fait passer pour une jeune femme de bonne famille, Guylaine de Barbantane, enceinte des œuvres de son fiancé emprisonné à Montluc. C'est une semi-vérité puisque Lucie Aubrac attend réellement un deuxième enfant. Elle tente d'expliquer à Klaus Barbie qu'une personne de son milieu ne peut décemment pas accoucher sans être mariée, mais ce dernier les conduit sans même penser à vérifier son identité. Lucie Aubrac obtient finalement d'un autre officier allemand une rencontre avec Raymond à la prison pour célébrer, dit-elle, leur union. Lors de sa visite, Lucie réussit à lui donner un plan de sa future évasion. C'est à l'occasion d'un transfert, le 21 octobre 1943, qu'est organisée l'embuscade. Lucie Aubrac et ses compagnons attaquent boulevard des Hirondelles. Entre le siège de la Gestapo et la prison Montluc, un camion de l'armée allemande dans lequel se trouvent 14 résistants. L'escorte allemande est abattue pendant l'assaut. Le couple Aubrac est immédiatement emmené et caché avec leur fils jusqu'à ce qu'un avion vienne spécialement d'Angleterre pour assurer leur sauvetage. Il était temps. Quelques jours après leur arrivée au Royaume-Uni, Lucie accouche de son deuxième enfant, Catherine.
This is the BBC Home and Forces program. Here is the news and this is John Snaig reading it.
Pendant la guerre, Lucie intervient à plusieurs reprises à la BBC afin d'encourager le combat des femmes résistantes. Le 26 août 1944, c'est la consécration. Lucie Aubrac est invitée à défiler à Paris sur les Champs-Élysées aux côtés des membres du gouvernement provisoire de la République et de son chef, le général Charles de Gaulle, qui est aussi le parrain de sa fille. Se dresser contre le nazisme est un réflexe patriotique, répète-t-elle inlassablement aux collégiens et lycéens qu'elle rencontre pendant de longues années, presque jusqu'à sa mort en mars 2007, à l'âge de 94 ans. 4 ans plus tard, Raymond Aubrac retrouve sa courageuse épouse qui lui avait sauvé la vie. Non pas une, mais bien 3 fois.
Europe 1, historiquement vôtre.